plus ou moins 32,5 kilocycles.
Émission Araga dirigée par Kamaridir, ma chronique revue de presse halal sur des sujets haram.
Salam alaikum, marakoum à Jumaat al-Haraga Nafi Daad Galer.
L'émission Haraga, la voix des sans-voix, des échoués de la vie. Elle fait appel à la rue qui la interpelle.
Et vous allez vous régaler avec vos micros trottoirs.
Et c'est une revue de presse halal sur des sujets haram. Wallah l'azim.
N'oubliez pas, vous êtes avec les Haragas de Marseille. Bakhir l'Haraga.
L'émission phare de Radio Galère, tous les jeudis.
De 16 à 18 heures, m'sa à la rabia, hâte m'sa à la sadisa. Ikhwani, akhawati, azul fillawun. Salam alaikum. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous vous portez bien. Ya Jumaat al-Khair. On est jeudi 6 février 2025 et on est content d'être parmi vous, ya Shab. N'oubliez pas que vous êtes sur Radio Galère, point 40, et dans l'émission Ta'idir Haraga. Comme chaque dimanche, les coulisses de la manif pro-palestinienne, bien sûr. Aujourd'hui, vous allez écouter deux personnalités, deux grands militants. Connu ici à Marseille. Il s'agit de Pierre Stamboul et Charles Loireau. Pierre Stamboul est l'Union des Juifs pour la paix et Charles Loireau, il a un CV très 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 riche. C'est un ancien militant, et il y est toujours, qui a milité pour les droits des chômeurs. C'est lui qui était derrière la prime des chômeurs et il passait son temps au palais de justice à Marseille. Donc j'ai nommé Charles Loireau. Donc vous allez l'écouter. Interviewé par notre reporter Samuel. Enfin, l'entretien a été réalisé par Samuel. Prise de son, Kamaridir. Et après, il y aura des reportages, des témoignages, comme chaque jeudi aussi, des portraits. Vous aurez le choix. La musique aussi. On essaie de varier. Donc, je vous dis bonne écoute et restez branchés sur Radio Galère. Lazem trihou ma'aha. Donc, c'est la seule radio qui est restée ici à Marseille, une radio militante. Et libre. Agda Khawa. Allez, bonne écoute et à tout à l'heure.
Quand on n'a rien à dire et du mal à se taire, on peut toujours aller gueuler dans un bistrot. Parler de son voisin qui n'a pas fait la guerre, parler de Boumédienne et de Fidel Castro. Parler, parler, parler. Pour que l'air se déplace, pour montrer qu'on sait vivre et qu'on a des façons. Parler de son ulcère ou bien des seins de glace pour faire croire aux copains qu'on n'est pas le plus con. on n'a rien à dire, on parle de sa femme qui ne vaut pas tripette, qui n'a plus 20 ans, qui ne sait pas cuisiner, qui n'aime que le drame, qui découche à tout va, qui a sûrement des amants. On parle du bon Dieu, on parle de la France ou du Vitel Cassis qui vaut pas celui d'avant. On pense à rien du tout, on dit pas tout ce qu'on pense. Quand on n'a rien à dire, on peut parler longtemps. Quand on n'a rien à dire, on parle du Mexique, de l'Amérique du Nord où tous les gens sont fous, du pape et du tiercé, des anti-alcooliques, du cancer des fumeurs ou des machines à sous, des soldats, des curés, de la musique militaire, de la soupe à l'oignon, de l'île de la cité. Quand on n'a rien à dire et du mal à se taire, on arrive au sommet de l'imbécilité.
Marseillais, Marseillaise, auditeurs de Radio Galère, on voudrait partager, poser des questions, discuter simplement, humainement, avec Monsieur Pierre Stanboul, qui nous a offert un nouveau livre magnifique. Si vous ne connaissez pas le sujet, c'est une bonne manière de l'aborder, parce qu'il est découpé en plusieurs chapitres. Lisez bien les annotations, parce que à chaque fois, en fait, en bas de page, il y a plein d'annotations qui renvoient plein de renseignements. Que moi je prends le temps en fait de vérifier un par un. C'est une mine d'or en fait ce bouquin. Donc j'aimerais bien en fait, si tu es d'accord en fait Pierre, pouvoir savoir un peu quelle est la situation actuelle en fait pour l'Union juive pour la paix, avec les déboires de des banques françaises qui vous font tant d'histoires.
Nous, c'est anecdotique, c'est-à-dire que le gouvernement français a donné la consigne, visiblement, à toutes les banques françaises de fermer les comptes qui envoient beaucoup d'argent à la Palestine. Donc, on en est victime. Le Crédit Coopératif ferme notre compte. On a toujours de l'argent à envoyer à Gaza. On continue de l'envoyer. Il faudra trouver une solution plus tard. La question est bien sûr européenne, mais ça traduit la complicité de nos dirigeants politiques, de nos dirigeants médiatiques, de beaucoup de juges, parce que je suis souvent témoin dans des procès avec les génocidaires. Je vais surtout parler, parce que c'est ça qui m'anime le plus, la situation à Gaza.
Ouais.
Les Gazaouis n'ont pas perdu, ils n'ont pas gagné. Alors ils n'ont pas perdu, parce que c'est clair que le but des génocidaires était de les anéantir en tant que peuple. Ouais. De les éradiquer, c'était pas le Hamas qui voulait éradiquer, c'est le peuple palestinien. Le but des sionistes a toujours été que les Palestiniens deviennent un peu les Indiens du Proche-Orient, expulsés ou enfermés dans leurs réserves. Bon, ça n'a pas marché, on a témoigné jour après jour que la société de Gaza, dans les pires circonstances, a résisté. Des moments très forts de cette résistance, quand les Israéliens ont eu peur que l'épidémie de polio les atteigne, en 5 jours, la vaccination de tous les enfants de Gaza était possible. Ouais. Et pourquoi elle était possible? Parce que le tissu social ne s'est pas effondré, et parce que dans tous les camps, il y avait des autorités qui ont pu amener les enfants, convaincre les familles, organiser la vaccination. Bon, ça, c'est quelque chose de très fort et de très important. Mais maintenant, les défis sont énormes. Il y a environ 400 000 personnes qui vivaient dans les tentes, qui ont pris la route à pied quand ils prenaient la route de la mer, en voiture, mais en ayant le droit de passer qu'une seule fois pour ceux qui prenaient la route Salah Adin, et qui sont partis vers le nord. Le problème, c'est que dans le nord, il y a encore un tout petit peu, quelque chose qui ressemble à un semblant de vie à Gazaville, mais à Jabalia, Betlaya, Beitanou, il n'y a plus rien. C'est inhabitable. Il y a déjà un tiers de ceux qui étaient partis qui sont revenus. C'est-à-dire que quand on a transformé un territoire avec 50 millions de tonnes de gravats, avec des instances internationales qui disent qu'il faudra 18 ans pour reconstruire, on comprend bien qu'aujourd'hui, il va y avoir un défi énorme. c'est rendre la vie possible pour se déplacer. Et nous, évidemment, l'UJFP, on n'en aura pas les moyens. On va pallier, un peu comme on l'a fait depuis un an et demi, à ce qui peut assurer la survie immédiate, mais pas la survie à long terme. Et la survie à long terme, il ne faut pas que ce soit les grandes banques ou les féodaux du Golfe qui s'en chargent. Il faudra que ce soit les Gazaouis qui en aient le contrôle. Et puis la deuxième chose, c'est les déclarations de Trump disant que la solution, c'est de vider Gaza de sa population et de les exiler en Égypte ou en Jordanie. Alors on a bien des déclarations de la Ligue arabe ou des pays en question disant, ou même du Qatar, disant qu'il n'en était pas question, mais est-ce que ces pays vont véritablement s'opposer à Trump? C'est un véritable enjeu, parce que Netanyahou va sauter sur l'occasion dès qu'il aura récupéré ses prisonniers pour dire bah maintenant je vide Gaza de sa population. Donc on est loin d'une mobilisation mondiale contre cet acte de crime de guerre, de crime contre l'humanité, de piraterie. Les dirigeants internationaux continuent à dire et à proférer des horreurs. La justice française continue à pourchasser les solidaires de la Palestine. Et donc voilà, il ne faudrait surtout pas qu'avec la trêve, la mobilisation diminue. On est à un moment charnière.
Mais justement, en fait, la dernière fois, tu as fait un exposé en fait, un peu de ton livre à la librairie Transit. Et on avait parlé deux, trois fois. Tu avais fait plusieurs citations sur les familles que tu connaissais là-bas en Palestine. Que dans plusieurs familles, en fait, il peut y avoir chaque gamin qui est dans différents courants et partis politiques. J'aimerais bien que tu me parles un peu de ça.
Ça, c'est Gaza. Je veux dire, Gaza a été totalement diffamé. Mais Gaza, et c'est la phrase de ma compagne Sarah Katz qui a vécu 2 ans à Gaza, c'est une société normale dans une situation totalement anormale. Et vous allez dans une famille, effectivement, bon, je pense au Mokhtar Abou Jamal, le Mokhtar de Khouza, mais voilà, il y a des enfants dans tous les partis politiques. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a pu rencontrer tous les partis politiques à Gaza, parce que justement, il avait des contacts dans tous les partis. À Gaza, quand vous rentrez dans un taxi collectif, c'est « Vive le Hamas !»« Ah non, à bas le Hamas, ce sont des corrompus !» Ça discute librement. Et y compris le Fatah existe librement à Gaza. J'ai discuté avec 2 de leurs dirigeants, qui avaient d'ailleurs des positions totalement divergentes. J'ai rencontré le djihad islamique, le président...
Ça, ça a dû être spécial, non ?
Ça, ça laisse un souvenir, c'est sûr. En plus, là aussi, on raconte les pires conneries sur le djihad. C'est vrai qu'ils ont un intitulé qui n'est pas très sexy en Europe. Mais enfin, djihad, ça veut dire simplement qu'on fait un effort personnel. Ça n'a rien à voir avec le fait de tuer des civils. Le djihad islamique, c'est un parti plus nationaliste que religieux. Ils veulent la libération de la Palestine, de la mer au Jourdain. Et il y avait eu un moment très drôle. Je disais au secrétaire général, mais qu'est-ce que vous faites des juifs israéliens? Il me répond, bon, il n'y a pas de problème, ceux qui étaient là avant 48, ils restent. Je lui dis, mais vous savez bien que l'écrasante majorité des juifs israéliens aujourd'hui sont nés après 48 et sont nés dans ce qui est aujourd'hui Israël. Il me prend par le cou affectueusement et il me dit, mais ça camarade, il faut que tu comprennes, ça c'est la position avant une négociation, après on verra. C'est ça aussi la Palestine. Et voilà, je dis, c'est une société incroyablement riche, et probablement que si elle est aussi abandonnée par les dirigeants des pays arabes, c'est parce que c'est la société la plus éduquée et la plus démocratique du monde arabe, et ça leur fait peur à ses dirigeants.
Et je voudrais encore que tu nous témoignes, parce que ça m'avait aussi beaucoup touché. C'était depuis plusieurs années, donc l'Union juive pour la paix aide les coopératives agricoles. Et tu m'avais raconté un peu l'histoire d'un bâtiment. Voilà, j'aimerais que tu nous transmettes ça.
Alors c'est pas exactement des coopératives au sens occidental du terme. Voilà. Ils travaillent de façon collective en s'appuyant sur la société traditionnelle de Gaza. Parce qu'il faut comprendre que à Gaza, il y a 75% de la population qui est réfugiée, mais ceux qui ont la terre, la plupart du temps, ne sont pas des réfugiés. Pour reprendre le langage de ce fasciste de Zemmour, c'est... sur la terre à Gaza. Et ils s'appuient sur l'organisation traditionnelle, les Mokhtars, qui sont des chefs de grandes familles élus par leur père et qui servent d'intermédiaire entre les familles qui les ont élus, c'est des familles de 2000 personnes parfois, et les autorités. Donc ces paysans du village d'Abou Taïba, à côté de Canyonis, quand ils se sont organisés, ils nous ont demandé une maison des paysans. Nous, comme on a des idées un peu à la gauche de la gauche, on aurait aimé qu'ils aillent avec l'UAWC, qui est proche du Front Populaire de Libération de la Palestine. Ils ont dit non, on les respecte, mais nous, on veut une maison indépendante. Donc, on a financé une maison des paysans. Et comment l'appeler, la maison des paysans? Ils l'ont appelé quartier général UJFP. Et donc, quand les ministres du Hamas voulaient discuter avec les paysans, ils venaient au quartier général du JFP. Je trouve ça de la gueule.
Grave. Voilà, des petits détails. Et après, là, tu dois prendre la parole, donc on va te laisser. Mais il faudra parler aussi du Rwanda et de tous ces aspects, en fait, tous ces aspects coloniaux, quand on a des emprisonnés, en fait, en France, en Martinique, parce qu'ils ont des positions contre les béquets. Pareil pour les Kanaks. On n'est pas sortis en France, en fait. Et là-dessus, on n'est pas de la même génération, mais on est totalement d'accord. On ne s'est pas encore débarrassé en France du problème colonial.
C'est sûr que il y a au moins deux choses qui expliquent la collaboration de nos autorités politiques et médiatiques avec les génocidaires israéliens. C'est que la parole n'a pas été dite sur tous les crimes du colonialisme français, et elle n'a pas non plus été dite sur Vichy et sur la collaboration d'une importante partie de nos élites avec Vichy. Et le fait, par exemple, aujourd'hui, la façon dont la parole des héritiers de Vichy, donc le Rassemblement National ou Zemmour, est reprise avec la submersion migratoire ou des choses comme ça, ça veut bien dire que cette parole n'a pas été dite.
C'est clair.
Et sur le colonialisme, qui sait en France que la conquête de l'Algérie, c'est un tiers de la population qui est tuée entre 1830 et 1871 Qui sait que les génocidaires français écrivaient à leurs femmes comme les gardiens des camps d'extermination nazis, et qu'on a les lettres et qui les a étudiées? Il y a encore des avenues Bugeaud à Paris ou en France.
Voilà. Et toi, par exemple, toi, tu connais en fait que les premiers à avoir utilisé les gaz pour éliminer des populations, c'était les Français en Algérie.
Ouais, ils ont utilisé. Et les premiers à avoir tué, balancé des prisonniers des avions, c'est pas les généraux argentins, c'est les Français à Madagascar. Non, mais il n'y a pas de problème.
Merci. Bonjour, on a le plaisir en fait de pouvoir interviewer Monsieur Charles Warraud de l'ANC, et j'aimerais en fait que tu nous parles un peu en fait de la lutte de l'ANC et des choses qui vont se passer dans les jours qui viennent.
Alors oui, alors d'abord je veux dire que l'ANC, donc c'est l'Association Nationale des Communistes, on a choisi le nom ANC évidemment en référence à l'Afrique du Sud et en se disant qu'en France le combat de classe il était indissociable du combat contre le racisme.
Yes.
Donc parce qu'on s'est bien vu, notamment avec le vote Sarkozy, qu'il y avait des Bantoustans en France, il y avait des petits villages gaulois où on votait au maximum droite et extrême droite, et puis à côté des cités populaires, notamment si je prends l'exemple de Marseille, là, dans le même arrondissement, des cités populaires qui votaient très peu, mais quand elles votaient, la proportion de votants était majoritairement pour la gauche, enfin, ce qui était vu comme la gauche du PS au PC, etc. Donc il y avait à la fois cette absence de perspective de lutte antiraciste et anticapitaliste qui faisait que beaucoup de gens ne votaient pas. Mais le peu qui votait, ils votaient pour, se disait surtout pour faire barrage à la droite et à l'extrême droite. Et donc dans ce contexte-là, on a créé l'ANC. Donc c'est pas étonnant qu'aujourd'hui on soit dans le combat pour la Palestine, parce que évidemment la Palestine, pour nous, c'est un des trois points du globe qui est au cœur de la lutte contre l'impérialisme. Il y a Cuba pour les deux Amériques.
Voilà.
Il y a la Corée du Sud pour tout ce qui se passe au niveau de l'Asie du Sud-Est. Et puis il y a la Palestine, qui est quand même qui a la malchance pour les Palestiniens d'être un nœud important du commerce entre l'Europe et les Indes. Ouais. Ça n'a pas changé. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est frappant de voir comment Palmerston, le premier ministre qui a parlé de ça anglais, c'était en 1840. Mm. Et bien aujourd'hui, en 2025, il y a un nouveau projet qui apparaît, qui s'appelle l'IMEC, ouais. Qui c'est pour faire le commerce entre l'Angleterre et les Indes, en passant par le canal de Suez, donc en passant par Israël et par la Palestine, évidemment, et la Syrie, qui vient de tomber au bon moment pour eux. Et donc, quoi qu'on passe de Bachar el-Assad par ailleurs, hein,
oui,
mais
oui,
en fait,
oui.
C'était un obstacle à leur développement. Et c'est, pour eux, c'est leur projet d'imposer, via leur voie commerciale, les produits européens et le pillage d'une autre forme des pays du Sud, que ce soit de l'Asie ou de l'Afrique, quoi. Voilà. Donc la Palestine est au milieu. Donc évidemment, ça ne peut pas rester aux mains des Arabes. C'est ce que disait Palmerston en 1840. Il disait, on ne peut pas laisser ça, à l'époque, on appelait ça les Ottomans, puisque c'était l'Empire ottoman. Il faut un foyer national juif avec des juifs qu'on rejette là-bas parce qu'on n'aime pas les juifs, on est antisémite évidemment. Mais si on leur donne une terre loin, au moins comme ils ont été en Europe, ils ont été civilisés par les Européens, qui bien sûr sont, comme on le sait, sont des gens très civilisés. Et donc ils vont civiliser. C'est d'ailleurs un texte qui a été écrit par un secrétaire de Napoléon III de l'époque. Il disait, les juifs, il faut que vous civilisiez les barbares que sont les Arabes et les Africains. Et on se retrouve en 2025 avec la même logique. C'est pour ça qu'il y a un soutien indéfectible des États-Unis et de l'Union européenne à Netanyahou et à sa politique, parce qu'on a toujours cette idée à la fois de commercialisation et de racisme profond envers, c'est évidemment que les Palestiniens, c'est des Arabes, donc ils ne sont pas capables de faire quelque chose de bien de leur terre.
Ouais, mais il y a aussi un président d'honneur à l'ANC.
Ah ben oui,
hein, quand même.
C'est pas tout à fait un hasard, disons.
Et non.
Alors il n'a pas accepté, c'est Georges Ibrahim Abdallah, bien sûr.
Voilà.
Ça fait, alors, je ne sais plus combien ça fait l'année qu'il est. Oui, alors, ça fait sa 41e année qu'il est en prison. Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'il est président d'honneur. Ce que je sais, c'est que quand on lui a demandé, il n'a pas accepté de suite, il a voulu voir ce qu'on écrivait.
Ah.
Moi, j'ai trouvé sa démarche très intéressante, parce que les honneurs, il s'en fout, lui.
Bah,
c'est
oui.
Plutôt à lui qui nous fait un honneur. Et il a lu ce qu'on écrivait, et donc il a accepté de façon motivée. Et là, on s'est senti honoré. On s'est dit, c'est un mec comme ça, il accepte d'être président d'honneur, et bien, ouais, évidemment, on est honoré. Et évidemment, c'était un
symbole. Il est reconnu dans sa pensée, en fait.
Exact. Et puis, alors, depuis, j'ai eu la chance de discuter beaucoup avec lui. Bon, c'est non, mais je lui ai dit la dernière fois qu'il n'était pas bien normal. Il m'a dit, c'est vrai, tu as raison. Parce qu'avec lui, on va parler de l'agriculture biologique en Chine. Mais deux choses, on se dit, mais le mec était en prison, il s'intéresse. Moi, je dis, c'est un homme du monde. C'est parce que c'est un homme qui est ouvert sur le monde, quoi. C'est pas un homme du monde au sens des mondanités, mais il s'intéresse à tout. Et donc, autrefois, on a parlé du Liban. Il m'a parlé des meetings qu'on faisait la NC en France. Je lui ai dit, mais tu es payé par les renseignements généraux, toi, tu me surveilles. Il savait que j'avais été à Nantes, à Châteauroux, il me tue. Et donc, c'était quelqu'un qui est brillant. Je lui ai dit qu'il faut qu'il écrive un livre. Et j'espère qu'il sera évidemment libéré le 20 février. Mais c'est un homme d'une brillant, très modeste, et d'une grande intelligence et puis d'une grande humanité, quoi. Vous savez, quand il m'appelle, puisqu'il m'appelle souvent, la première question, c'est comment tu vas, tu n'es pas trop fatigué. J'ai envie de lui dire, et toi, comment tu vas, quoi. Mais non. C'est toujours pour les autres, quoi. Il s'est identifié à la Palestine et son combat, il est collectif. On ne peut pas savoir, j'arrive pas à savoir s'il est en forme ou pas en forme. Pour moi, il est toujours en forme, toujours content. Enfin, je sais bien que ce n'est pas vrai, mais il a toujours ce souci du combat collectif. Et il dit, mais moi, je me rappelle une fois, j'étais à la Meusanne, j'arrive à peine, le car arrive à la Meusanne. Et il me dit, je suis très content. Je dis, nous, j'étais content parce que les flics voulaient interdire la manif.
Ouais.
On avait réussi quand même à la faire.
Merci.
Et il m'avait dit, c'est important pour toi. Il me dit, ah non, mais c'est pour la Palestine. Je dis, mon con, si on veut manifester pour la Palestine, on n'a pas besoin de venir à la Meusanne. Donc il a rigolé. Et j'ai dit, on est venu pour toi, là. Mais bien sûr pour la Palestine, mais aussi pour toi. Voilà, pour dire, c'est quelqu'un qui s'identifie au combat collectif et qui oublie sa personne pour le combat collectif. C'est une leçon d'humanité terrible, quoi. Voilà.
Ouais, c'est clair. Mais alors, par exemple, souvent, enfin là, en ce moment, il y a un prisonnier en Algérie. Alors là, les Français, ils savent dire que c'est pas bien et tout. Et que là, il y a un prisonnier, donc Georges Ibrahim Abdallah, qu'on accepte de garder en prison parce qu'on obéit aux ordres, en fait, des USA.
Bien sûr.
Et en quoi, en fait, on peut se permettre, en fait, de critiquer l'Algérie alors que, en fait, chez nous, il y a quelqu'un comme ça, et il n'y a pas que lui, en fait, maintenant. Il y a aussi ceux qui luttent en Martinique, il y a les Kanaks. On n'est toujours pas sorti du colonialisme.
On n'est pas sorti du colonialisme, et même Macron sur Mayotte, il a eu des propos qui sont digne du 18e siècle, hein, parce que là, vraiment, sans moi, vous seriez dans la merde, mais il se prend pour qui, là. Mais sur Sansal en Algérie, moi, j'ai réagi parce que, alors que je ne suis pas la France insoumise avec qui j'ai des désaccords, oui. Il y a eu des attaques violentes contre Rima Hassan par rapport au fait qu'elle ait voté contre la résolution. D'abord, je pense que c'est des attaques racistes, au bout du bout.
Ah, oui, c'est clair.
Mais en plus, moi, je n'aurais pas voté la résolution qui a été présentée au Parlement européen.
Pourquoi,
et qui a été présentée par Marion Maréchal Le Pen.
Oui, mais alors.
Quand l'extrême droite, elle commence à proposer un texte, par principe, je vote contre. Voilà. Okay. C'est pas compliqué. Et ouais. Deuxièmement, ça ne veut pas dire que je suis pour l'emprisonnement de Sansal, mais dans le texte en question,
voilà.
Et il y avait des arguments qui touchaient à la souveraineté de l'Algérie, à ses propres lois, et ça, nous, en tant que Français, de quoi on va se mêler? On peut se référer au droit international, ça d'accord, mais nous, on n'a pas de leçons à donner aux Algériens, surtout après ce qu'on leur a fait pendant 132 ans. Donc, je trouve que là-dessus, c'est d'une hypocrisie et puis d'un racisme et d'un colonialisme, cette résolution, moi, je ne l'aurais pas votée. J'aurais voté contre moi aussi, parce que je trouvais, autant je suis pour la libération d'un homme, parce qu'il a, même s'il a dit des choses que je trouve inacceptables, dire que... Il a eu des propos sionistes, des propos qui sont sur le Maroc et sur le Sahara occidental. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ses propos. Ce n'est pas pour ça que je pense qu'il faut qu'il aille en prison.
Voilà.
Mais ça, c'est une affaire des Algériens, c'est une affaire du gouvernement algérien. Et nous, on n'a pas à leur donner de leçons.
Voilà.
Et là, une fois de plus, le Parlement européen, il se pose en donneur de leçons au monde entier, qui déjà vit de ses prisons, lui, de tous ses prisonniers injustes. Et puis après, il parlera des autres. Et en commençant par Georges.
En fait, Marion Maréchal, en fait, elle ne sait rien dire sur Georges Ibrahim Abdallah.
Ah ben non, elle est pour qu'il reste. Elle est pour qu'il reste. Bien sûr, c'est les mêmes gens qui se sont indignés, c'est ceux qui n'ont jamais rien fait pour Georges Ibrahim Abdallah, quoi. Voilà, donc, moi, en plus, franchement, sur Rima Hassan, je trouve qu'il y a ça fait plusieurs fois, il y a du racisme derrière elle.
Et
ça ne veut pas dire que comment dire, d'abord, elle est palestinienne. Rien que ça, ça devrait, même si elle a vécu en Europe l'essentiel de sa vie, rien que ça, elle a des racines, ça mérite le respect, ça mérite l'écoute. Je me prononce pas sur des choses qui touchent, vous voyez, les Palestiniens qui ont eu les accords d'Oslo. J'avoue que j'étais interrogatif, mais je me suis dit, je ne suis pas palestinien, qu'est-ce que je vais dire, moi? Donc, je soutiens le peuple dans ses combats et ses débats, et les débats leur appartiennent. Et donc, Rima Hassan, elle explique pourquoi elle a voté contre, mais je pense que sur ce vote-là, je suis d'accord avec elle. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que les écologistes, Europe Écologie Les Verts, c'était un parti de droite avec des gens de gauche dedans, pour caricaturer.
Oui, oui.
Mais ils m'ont invité à la rentrée, là, à leur assemblée de rentrée. Donc j'étais le premier surpris.
Ouais.
Et non seulement ils m'ont invité, mais ils m'ont invité à prendre la parole aussi en tant qu'ANC. Donc moi, ils m'invitent, j'y vais, il n'y a pas de raison. Et donc, j'ai parlé de trois points de désaccord que j'avais avec les écolos, c'est-à-dire à savoir l'envoi des armes en Ukraine, à savoir le fait que si on n'attaque pas le capitalisme, l'écologie, ça va rien dire, et en fait, que si on met tout sur les élections et rien sur les manifs, on n'y arrivera pas. Sur ces trois points, mais je l'ai dit pas avec agressivité, j'ai dit entre gens de progrès, on peut se parler.
Yes.
Sur trois points, j'ai été applaudi. C'est pas l'important que j'ai été applaudi, mais ce qui est important, c'est que j'ai vu des gens qui étaient sensibles au débat. Voilà. Et donc, et moi, je sais très bien, d'ailleurs, on a des gens qui, chez nous, puisque c'est possible, qui ont la double carte Europe Écologie Les Verts ANC. Et ça nous dérange pas. Et après, c'est les contradictions, c'est eux qui les assument, qui les combattent à l'intérieur, qui font comme ils peuvent. Et je pense qu'on a intérêt à se parler entre gens de progrès.
Exactement.
Et je disais que je ne suis pas d'accord avec la France insoumise sur bien des points. Ça n'empêche pas qu'on puisse se parler avec eux et que savoir quand c'est qu'on est d'accord ou pas d'accord. Là, il y a quelques personnes de la France insoumise dans la manif, très bien. Donc une qui monte à Paris la semaine prochaine pour Georges. Voilà, c'est déjà, je les reconnais. Voilà, et je ne vais pas. Je ne vais pas être sectaire à dire il n'y a que nous, l'ANC, qui défendent Georges. C'est pas vrai. Ce fut le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et je m'en réjouis. Et je ne vais pas dire à ceux qui sont là que depuis deux ans pourquoi vous arrivez à peine maintenant. Je leur dis au contraire, vous arrivez maintenant, mais tant mieux que vous arriviez. Voilà.
Et c'est en fait le propre aussi de se faire progresser. En se parlant, on arrive à mieux se comprendre, à voir qu'en fin de compte, peut-être que si on discute correctement en fait, des sujets, fait, on est d'accord, quoi.
Alors après,
en gardant chacun son identité.
Moi, après, derrière ça, il y a la question des appareils et la question des autres humains et de la base.
Toujours le problème entre la base et les appareils.
Je ne suis pas sûr qu'avec Jadot, j'arriverai à me mettre d'accord.
Ça, c'est clair.
Je ne suis pas sûr qu'avec Roussel, j'arriverai à me mettre d'accord.
On est d'accord.
Pour autant, ça n'empêche pas qu'à l'intérieur de ces deux organisations, il y a des gens avec qui j'ai beaucoup d'accord et souvent qui, ben, je le vois moi sur Facebook tout bêtement, hein, il y a des gens qui like des publications que je publie ou que l'ANC publie et qui sont pourtant en désaccord avec les positions de leur parti. Mais voilà, ça. Donc les individus, il ne faut pas, comment dire, il faut pas les renier, quoi. Moi, après, j'ai été syndicaliste longtemps, je sais bien que dans les entreprises ou chez les chômeurs, c'était le cas, ben, y avait des gens qui n'étaient pas dans la même organisation, mais on était reliés par la cause, quoi. Et la cause, ça peut rassembler. Il faut voir, quand on est communiste, normalement, enfin, c'est ma conception, c'est la différence entre un gauchiste et un communiste. Le gauchiste, il va mettre l'accent sur tout ce qui divise, et le communiste, il va mettre l'accent sur tout ce qui rassemble pour créer des majorités d'idées. Et donc nous, on va effectivement chercher ce qui nous rassemble avec les gens. Là, sur la Palestine, tous ceux qui sont d'accord de se battre pour le cessez-le-feu et pour les droits du peuple palestinien, bienvenue.
Par exemple, moi, j'ai remarqué, en fait, avec la guerre en Ukraine, qu'il y avait plein de gens, en fait, tout simplement, ils étaient matrixés, en fait, par les médias. Ils ne savaient pas, en fait, les massacres de la maison des syndicats à Odessa. Et qui croient, en fait, le récit, en fait, des...
Que la guerre a commencé en février 2022.
Voilà, et qui ne se rendent pas compte, en fait, qu'il y avait déjà des réellement nazis parce que, bon, à la maison des syndicats, il y a des gens qui sont brûlés dans la maison, qui ont dû sauter par les fenêtres et qui, quand ils se retrouvaient au sol, ils se faisaient tabasser par les gens, quoi.
Alors, nous, ici, à Marseille, on a reçu en 2015 des gens, dont une dame qui avait perdu son fils dans cette maison d'Odessa, donc, et qui nous disait déjà en 2015, on demande à Poutine d'intervenir parce qu'on se fait massacrer parce qu'on est russophone, et Poutine, à l'époque, disait, je ne veux pas intervenir, c'est le rôle de l'ONU. Et en 2015, ça a duré jusqu'en 2022. Je ne dis pas que Poutine a eu raison d'envahir la...
Il y avait cinq républiques qui avaient demandé leur autonomie et pas leur rattachement à la Russie.
Bien sûr, bien sûr.
Et après, ça a évolué.
Je vois que tu es bien informé. Mais donc, ça ne donne pas raison à Poutine d'être rentré en Ukraine.
On est d'accord.
Ça ne donne pas raison à pas des armes, mais il y a eu quand même 15 000 morts entre Odessa, justement, 2014 et 2022. 15 000 morts. Oui, on remonte loin. Si on retourne dans l'histoire, bien sûr qu'on remonte loin. Et notamment, enfin, il ne faut quand même pas oublier que le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens, c'est la Russie. À elle seule, elle accueille plus de réfugiés que l'ensemble des pays du monde. Et voilà, donc ça veut bien dire quelque chose. Bon, après, Poutine, c'est un libéral de droite, peut-être que je serai en prison chez lui, etc. Mais en tout cas, là-dessus...
C'est leurs affaires intérieures, ben, comme voilà. Les Algériens, c'est leurs affaires intérieures,
exactement.
Ça a eu de régler leur truc.
Mais moi, je ne suis pas pour prendre parti pour des nazis, et voilà, et les brigades Azov, tout ça, c'est les nazis. Bon, voilà, d'accord. Écoute, c'est pour résumer ce qu'on passe.
Merci, c'était magnifique.
Charles Loireau, leader en plein temps des chômeurs marseillais. En 14 ans, il a eu 14 condamnations. Dès la fin 1980, le destin de Loireau, figure emblématique et grande gueule, est lié à celui des comités chômeurs. Le premier d'entre eux est créé en 1989 à la fermeture des chantiers navals de la Ciotat, alors que les ouvriers se battent pour préserver leur emploi. Bientôt, les militants cégétistes et communistes passent de l'usine aux cités et tentent d'organiser les chômeurs à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône afin de lutter contre l'urgence sociale. Charles Loireau fréquente régulièrement les postes de police et les tribunaux. Lancé à partir de 1993, les manifestations pour la prime de Noël structurent le mouvement et les médias commencent à s'y intéresser au moins de façon saisonnière. La CGT, par ailleurs en France, seul syndicat de salariés à organiser les chômeurs, apparaît dès lors comme leur représentant légitime dans la région marseillaise. Aujourd'hui, Charles Loireau défend la Palestine et Georges Ibrahim Abdallah. Interviewé par Samuel. Aujourd'hui, Charles Loireau défend la Palestine et Georges Ibrahim Abdallah. Interviewé par Samuel.
On devient tous des clones et donc, parce qu'on veut, selon les politiques, ils veulent que l'on soit des clones et donc qu'on n'ait pas la force d'être quelqu'un, mais qu'on ait la force d'être ce qu'ils veulent qu'on soit.
Ouais.
Et donc, on est toujours là, nous, en tant que peuple, à jouer, à chercher l'équilibre dans le déséquilibre. Et ce déséquilibre, on arrive on ne trouve même pas de quoi l'enrichir. Notre équilibre, on ne trouve jamais de quoi l'enrichir, parce que c'est la demande des gouvernements et des États. Hein. Les seuls qui arrivent à s'enrichir, c'est pas dans notre équilibre, c'est dans leur déséquilibre. Hein. Et tout le reste, c'est de la littérature, parce qu'on va tous dire la même chose, malheureusement. Mais on ne dira pas la réalité. C'est-à-dire, notre handicap, c'est qu'on est tous des clones, et qu'on veut rester des clones, et que... Pardon ?
Je vais avoir ma propre parole. Hein.
Mais justement, justement. Mais vous ne restez pas à la maison, devant vos télés, etc. Hein. Mais la volonté des États et des politiques, c'est qu'ils restent isolés, hein, et que les riches restent isolés, et que nous, on reste isolés à travers notre équilibre qui est malheureux, qui est triste, hein, et le leur qui est dans le développement et toujours dans l'enrichissement, parce qu'ils ils amènent toujours des nouveautés dans leur déséquilibre, et ces nouveautés-là créent leur richesse. Alors que nous, on nous offre jamais de nouveautés. On nous dit fermez vos gueules, manifestez, parlez de politique, point barre. Et donc ce qui est triste, pourquoi parler de politique? On n'a pas d'égalité, on n'a pas de liberté. Donc on est dans le déséquilibre, et le déséquilibre, notre déséquilibre, c'est ce qu'ils appellent eux l'équilibre. C'est celui qui nous impose. Tristement, tout le reste, c'est de la littérature. C'est de la littérature. C'est triste à dire, c'est triste à voir, mais on ne nous permet pas de nous enrichir. Dès qu'on veut s'enrichir, ne serait-ce que moralement, intellectuellement, etc., effectivement, surtout humainement, on lui dit, au revoir, c'est pas votre place. Je veux dire, après, il faut avoir le courage de rentrer dans la tranche politique, hein, où il n'y a que des loups. Hein, et si on n'est pas loup, il faut qu'on le devienne. Voilà. Et tristement, bah, on en est là, aujourd'hui, en l'an 2020. Le tout, c'est toujours pareil. Les élections, c'est pas de la merde. Hein, et si on n'est pas loup, il faut qu'on le devienne. Voilà. Et tristement, bah, on en est là, aujourd'hui, en l'an 2020. Le tout, c'est toujours pareil. Les élections, c'est pas de la merde. J'avais rien à dire.
Micro ouvert aux manifestants.
Nous, tout ce qui se passe à Gaza, on est concernés parce qu'on a perdu d'enfants. Mais Macron, c'est un vrai assassin parce qu'il protège. Il protège les assassins. Donc, les politiques en place en Israël, c'est un vrai assassin protégé par la France. Clairement, protégé à 100% par la France. On est très triste. Et on n'a même pas le droit de manifester. C'est triste. C'est grave. C'est pour ça qu'on est dehors. On est en train d'exprimer notre en colère. Déjà, il s'est fait dégager de l'Afrique. Là maintenant, il n'y a plus rien. La France, il est à genoux par terre. À l'heure actuelle. Macron, c'est un vrai assassin. C'est un vrai assassin. Il faut le dire, parce qu'il y en a plein qui le cachent. Mais nous, on ne le cache pas. On dit la vérité. Ça peut coûter la vie à n'importe qui, mais pas à tout le monde. Mais c'est un vrai assassin, Macron. Avec sa femme, il mange le sang. Macron, il mange le sang. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Ça peut. Mais c'est un vrai assassin. Il mange le sang. Sa femme aussi mange le sang, parce qu'un mec qui garde les jeunes comme ça, parce que le président là, il faut lui dire, il faut lui dire non. C'est un assassin, en plein air.
Merci beaucoup.
Merci, bien, bravo.
Vous êtes courageux.
Voilà, merci.
Si on participe autant aux manifestations, c'est pas simplement en solidarité et on va dire tout simplement pour le simple sort des Palestiniens, mais parce qu'on pense que ce qui se passe en Palestine, en réalité, c'est, en protégeant les Palestiniens, on est en train de préparer la défense même de la population européenne, puisque ce qui est en train de se préparer à l'échelle mondiale, c'est une espèce de grande déflagration, et ils en parlent, hein, c'est public, les Allemands, les Français, les Américains, tout le monde parle d'un conflit de haute intensité, ils sont en train de gonfler à mort tout leur budget militaire pour préparer une grande offensive militaire du côté de la Russie, du côté, ils parlent même de conflits sur le sol turc, de conflits potentiellement vers le Maghreb, et en fait... ce qui est en train de se produire en Palestine, c'est l'ouverture d'un espèce de front mondial entre d'un côté les tenants de l'ordre impérialiste hégémonique dirigé par les Américains, ce qu'on a tendance à identifier, ce qu'on a tendance un peu à appeler comme justement le bloc UE-OTAN, et de l'autre côté, en fait, un ensemble de forces, mais complètement hétéroclites, de forces, de peuples, de gouvernements, de pays, enfin, qui sont pour mille raisons différentes, qui ont tous une raison commune, c'est de résister à la domination générale de leur économie, à la prédation économique des Américains et des Occidentaux sur leur économie. Et qu'en fait, dans ce point de rupture, l'essor de ces mouvements est en train de préparer une énorme crise pour l'impérialisme, et c'est ce qu'on est en train d'assister. On voit bien l'émergence de conflits dans tous les sens, même.
Se minime pigai assai bella na casa e fin dai cinque de a mattina che sera sente che aspettava che sera un pare de famegia co quattro fioi da mantenir che da trent'anni vive in soffitta pien de sorsi, de acqua e de sporco, che ne sera un'altra infinita, coe careghe e i tavolini, che aspettava il momento buon de rompere.
Dans ce point de rupture, l'essor de ces mouvements est en train de préparer une énorme crise pour l'impérialisme, et c'est ce qu'on est en train d'assister. On voit bien l'émergence de conflits dans tous les sens, même aux États-Unis, ils n'ont jamais été aussi divisés. Ils sont en train de faire. Oui, on voit l'émergence de conflits partout, et surtout, du coup, en filigrane, on voit l'apparition d'un espèce d'énorme conflit mondial qui passe de la Finlande à l'Ukraine, à la Palestine, du côté de Babel, le Mandeb, en passant par l'Iran, le détroit de Taïwan et la Corée, d'une espèce de grande offensive mondiale contre l'ensemble de ces peuples qui relèvent la tête. Et nous, on pense qu'en défendant les Palestiniens, on est en train de préparer le côté qui se bat simplement pour sa survie contre en fait, des représentants des gouvernements occidentaux qui cherchent juste à écraser l'ensemble des souverainetés nationales de tous les peuples du monde, quoi.
Dans votre mouvement, vous êtes clairement contre les empires, les grands blocs comme ça. Pour moi, aujourd'hui, l'OTAN représente l'axe du mal. Et c'est une vraie évolution en fait, dans le communisme. J'avais toujours l'idée, dans le communisme, je dois effacer mon identité. En fait, non. Voilà, je veux que tu m'expliques un peu ça.
Oui, pour le coup, je trouve. Le mouvement communiste, il s'est toujours retrouvé, il a toujours eu le sentiment d'être agressé de toutes parts par des milliers de facteurs différents. Et même en France, quand on est communiste en France, c'est hyper dur. Tous les médias sont contre toi, la population est persuadée qu'en fait tu veux manger des enfants le matin. Enfin, c'est. Tous les clichés qu'on a, c'est une catastrophe. On nous sort des références, genre le livre noir du communisme. Quand tu regardes, il y a 5 auteurs marqués dessus qui nous expliquent qu'il y a 100 millions de morts. Sur les 5 auteurs, je crois qu'il y en a 4. Qui ont demandé quasiment à renier leur contribution et leur participation au texte, tellement les chiffres étaient tirés par les cheveux et étaient à moitié inventés. Mais pour revenir un petit peu justement sur cet aspect individuel et surtout maintenant multipolaire de l'opposition, la dimension multipolaire de l'opposition au bloc impérialiste hégémonique, c'est que l'impérialisme à chaque étape de sa vie a correspondu, à chaque étape de développement a correspondu à une monopolisation toujours plus grande. Initialement au sein d'un même pays, des familles qui devenaient tellement puissantes qu'on pu prendre le contrôle de la moitié des industries des pays, puis carrément du capital bancaire, et qu'on finalement, après 45, abouti à une unique force impérialiste qui est capable, qui est les États-Unis et la bourgeoisie américaine, qui s'est mis à être capable de contrôler la moitié des pays, ou en tout cas de vassaliser à différents degrés tous les autres pays de la planète. Et en fait, dans tout ce moment de monopolisation, ce qui s'est aussi passé à l'inverse, c'est, je ne sais pas si c'est vraiment français, mais une espèce d'hétéroclitisation de justement la réponse et de l'opposition à l'impérialisme. Et c'est ça justement ce que je disais, en fait, de la même manière que moi, mon individualité, il faut la respecter dans un mouvement général anti-impérialiste, populaire, il faut qu'on soit tous capables de discuter ensemble, de s'unir contre les vrais sujets qui sont en train de nous massacrer, qui sont en réalité, par exemple, la fascisation, le blocage politique, ça vient précisément de leur crise, de la crise impérialiste et de leur nécessité à eux de venir nous essorer comme des vieilles chaussettes, comme des vieilles serpillères, pour faire jeter tout le jus qu'ils peuvent, parce que précisément, ils se font jeter. Il y a plein de mouvements partout qui sont en train de supprimer des entreprises françaises qui avaient l'habitude d'aller essorer des peuples à l'autre bout du monde. Et maintenant, du coup, ils sont obligés de reporter leur exploitation et leur extraction de surprofit sur les peuples d'Occident et de les préparer même à financer, à supprimer nos hôpitaux, nos écoles et compagnie pour financer une espèce de grande armée. Et ils parlent même d'une armée européenne qui a pour objectif d'aller étendre les intérêts européens, par exemple, à l'extérieur des frontières. Et tout ça, pour nous, ça nous inquiète beaucoup, mais que c'est bien... Pour nous, il y a une continuité directe entre ce grand processus de fascisation et de soutien des entreprises génocidaires aussi dramatiques que celles qu'on observe ici et l'espèce de réveil de l'ensemble des peuples du monde. Et qu'en fait, on a l'impression d'être écrasé, mais on est en train de vivre d'une certaine manière, au contraire, un grand réveil. C'est-à-dire que nous, toute cette violence qu'on reçoit, ça ne vient pas de la force de l'impérialisme, mais au contraire de ses faiblesses. Et que donc, même si nous, maintenant, on se retrouve à être dans l'endroit où on est le plus écrasé, à subir des violences quotidiennes fascistes extrêmement dangereuses, au final il faut nous aussi qu'on s'attende à être capable de se saisir de ces contradictions, parce qu'il y a gros à gagner à se mobiliser et à s'organiser aujourd'hui,
voici l'histoire malheureuse de Jonas. Je veux savoir pourquoi les responsables de Adema me harcèlent, lâche-t-il calmement, en posant ses dossiers sur la table du bar Le Chapitre, qui renferme 30 années de vie et 18 ans de combat. Je vous rappelle que Jonas Aka Bizebié se présente en 2030. Il a fondé le Parti du Peuple Africain, PPA. Voici son histoire, Peuple Africain, PPA. Quelqu'un qui milite depuis 20 ans. Je l'ai connu depuis 20 ans, n'est-ce pas, Jonas?
Bien sûr. Depuis 20 ans, j'ai même fait la grève de la faim illimitée de Port d'Aix. Pourquoi? Puisque mon pays de naissance, la Côte d'Ivoire, c'est disant un pays démocratique. Et tout ça, les autorités de mon pays d'origine, donc, m'ont accusé d'avoir usurpé, d'avoir volé les papiers ivoiriens parce que j'étais candidat à la présidence de la République. Tu vois? Mais je milite dans ce sens-là puisque bien avant que je crée le PPA, c'est-à-dire le Parti du Peuple Africain, c'était les 5 continents avec lesquels je m'occupais des jeunes. Tous les jeunes de toutes nationalités à Marseille. Mais malheureusement, tous ces jeunes-là, on leur a lavé le cerveau. Ils n'ont pas voulu donc faire quoi que ce soit. Et c'est pour ça que j'ai un peu arrêté.
Alors, aussi vous étiez victime aussi d'attaques, d'agressions de la part de votre communauté quand même.
Je suis victime d'agressions de la part de la communauté ivoirienne. C'est-à-dire que c'est le tribalisme. Le tribalisme, à partir du moment où le clan Gbagbo, la tribu Gbagbo, c'est-à-dire les Bété, qui sont nombreux ici à Marseille, représentés, ils ne veulent pas du tout composer avec des personnes comme moi qui, éventuellement, se défend et se bat. Ce matin même, à 8h15, quand je descendais ici, j'allais d'abord au boulevard national, puisque j'allais aller, donc je partais pour un rendez-vous voir un logement. Un certain Alain, qui s'est dit donc représentant des Ivoiriens, c'est un bété, c'est des sauvages, il m'a attaqué. Ça fait déjà 3 ans que ce mec, partout il me voit, il m'attaque. Parce qu'il vient être français, mais il a la candidate de casserole derrière. Comme il a des casseroles derrière, il a voulu passer par moi pour avoir donc la santé française. D'un coup, il s'est rebuffé. À partir du moment où les documents ont été remis à des hommes politiques, il devait me remettre donc des compléments de son dossier, puisque le dossier était ouvert, c'était en attente. Il m'avait donné que 3 papiers. Les 3 papiers, je les ai donnés donc à des élus. Ces élus-là, il a voulu que moi je lui donne donc le nom. Que lui-même il y a, j'ai dit non. À partir de moi, tu veux maintenant faire le retrait de tes papiers, je vais aller le voir. Je suis allé voir ces élus. Ces élus m'ont dit que tant qu'il ne donne pas la motivation, la raison pour laquelle il veut récupérer son papier, il ne me le donne pas. J'ai demandé à ce monsieur, Alain, complice à la tête, soi-disant, de la communauté ivoirienne, qui me traite de fou, de menteur, de salaud, de PD, de partout. Ça fait 3 ans que ce type. J'ai même déposé une plainte contre lui. Pas main courante. Hein. Une plainte contre lui. Mais il n'a jamais été inquiété. Avec sa bande de Mama Africa à la rue d'Opagne, puisqu'ils sont là uniquement, ce sont des gens qui se livrent à des trafics. Et comme moi, je ne suis pas dans ce milieu-là de trafic, de magouilles, de mariages gris, de mariages blancs, de voleurs d'enfants pour se faire régulariser, toucher les allocations familiales. Et ils m'en veulent, ils m'embêtent. Et ils m'en veulent.
J'ai l'impression que votre scénario, votre film, il ne se termine pas quand même. 20 ans et vous ne lâchez rien du tout. Vous faisiez partie de quelle tribu à l'époque ?
Je ne lâche pas parce que moi, je suis gourou. Je suis de la Tini gourou. Je t'ai donné même, je t'ai fait la copie des trucs, il est dedans. Quand tu iras, tu verras la carte. La carte ethnique des groupes représentés en Côte d'Ivoire. Moi, je suis gourou de la Tini gourou. Et ils sont bêtés. Bêtés. C'est le clan de Gbagbo. C'est les nationalistes. Ce sont eux qui foutent le bordel en Côte d'Ivoire. Depuis Fort Landa, depuis Oufoué. La merde qu'il y a eu, la guerre civile qu'il y a eu, ce sont eux qui ont provoqué. D'accord ? Les tueries qu'il y a eu, ce sont eux. Ils sont à la base de ça. Je n'ai rien contre eux. Mais ils m'en veulent. Parce que on n'est pas. Je ne suis pas issu de mes groupes ethniques. Je dis bien les BTC de sauvages.
Donc vous avez une image quand même de l'Afrique qui est noire quand même, et qui est, je m'excuse le terme, qui est sombre.
L'Afrique est mal partie. C'est pas d'aujourd'hui. Depuis soi-disant que De Gaulle a dit, vous les Africains, je vous accorde donc une certaine autonomie sous forme d'association en 1960, et ils se disent que c'est une indépendance, ce n'est pas une indépendance. Une indépendance, une liberté entre nous, elle ne se donne pas. Elle se prend la liberté. Et ma liberté, je la prends avec les Ivoiriens, que ce soit à Marseille, que ce soit n'importe où, avec ces sauvages-là, avec ces bandes qui m'agressent tout le temps, et que la police ne fait rien. Il y a un assistant à personne en danger. J'ai porté plainte contre ces derniers. Le 24 coups de Belzins, ils travaillent donc au Maxi Bazar. Les gens peuvent aller le voir.
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?
Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais continuer le combat. Tant que je suis à Marseille, tant que je suis vivant, tant qu'ils ne me lâchent pas, tant qu'ils ne me lâchent pas, la liberté d'aller venir.
Alors, qu'est-ce que vous allez demander au maire ? Il faut vous adresser au maire aussi qui vous donne un coup de main ou je sais pas moi. Il y a un maire ici, il y a une issue quand même.
Mais depuis que l'équipe a changé. Je suis allé déjà pour prendre un rendez-vous avec auprès de M. Lemina. Lemina, on ne m'a pas reçu. Alors, je ne sais pas qui faut voir à la mairie pour être entendu et convoquer ces gens-là, leur dire qu'ils sont en France, ils vivent dans une république, ils sont à Marseille. Marseille, c'est la deuxième ville de France. Marseille, c'est Marseille qui a ratifié, qui a été la première ville de France à ratifier donc la déclaration des droits de l'homme. Pourquoi ? Nous vivons dans un état de droit et moi, ce sauvage-là, ces bandes de sauvages, de voyous, de magouilleurs, de macros qui mettent les filles, les Ivoiriennes sur le trottoir, qu'on ne leur fait rien.
Vous voulez parler des prostituées ?
Je veux parler des prostituées.
Alors il y a un trafic qui vient de Côte d'Ivoire ?
De Côte d'Ivoire, oui, jusqu'à ici même. Je connais. J'en connais. Une certaine qui était donc qu'on l'a engrossé tout ça. C'est à moi qu'elle a fait recours. C'est à moi qu'elle a eu recours. Et c'est moi qui l'ai aidé. Tant que ces Ivoiriens-là, si maintenant la France, nos élus, qui nous représentent, qui sont élus par le peuple et qui représentent la République, s'ils ne font rien pour moi, j'ai dit il y a non assistant à personne en danger. Je suis en danger. Parce que Gadi Alain m'a dit que lui, il est voyou. Il va m'envoyer du monde. Ce sont ses amis qui vont me faire affaire. Mes activités, mes allers-venir, il surveille. Il l'a répété encore ce matin. Il l'a encore confirmé. Il l'a réitéré. Et je n'ai pas peur. C'est une aide au secours que je lance. En tant que citoyen, je suis franco-ivoirien. Je suis propre. Je ne suis pas sale. Je ne suis pas sale, je suis propre. Et ces gens-là, je ne vais jamais composer avec eux. Et mon trait de fou, oui, je suis un fou. de la façon dont je raisonne, je suis un fou. Je me documente. J'ai des preuves de ce que je fais. Je ne suis pas un voyou. Je n'ai rien contre le voyou. Je ne suis pas un délinquant. Je n'ai rien contre les délinquants. Je ne suis pas un drogué. Je n'ai rien contre les drogués. Chacun fait sa vie, chacun sa croix.
Oui, vous êtes sur les ondes de Radio Galère au 88.40 avec l'émission Haraga. En écoutant bien sûr Jonas. Juste après, vous allez écouter Jean-Paul Guadeloupien, un artiste que j'ai rencontré à La Plaine. Et de temps en temps, il est au cours Julien. Vous allez voir. Cette chanson, la musique que vous êtes en train d'écouter, c'est du jazz dribou, du rétro-musique gourou. Ce qu'il m'a dit Jonas, d'essayer de chercher sur Internet. Donc j'ai trouvé cette chanson et je lui ai passé cette chanson. minutes sur les ondes de Radio Galère 88.40 d'AB+, comme on dit, non? C'est ça, non? C'est l'émission Haraga. L'émission Haraga, on a essayé d'ouvrir notre créneau, notre cerveau, notre tête toutes les musiques qui est dans une émission algérienne, maghrébine, africaine. Voilà, c'était mon but. On va passer à Jean-Paul.
Donc, je suis à la plaine. À côté de moi, j'ai rencontré un artiste. Il va se présenter.
Bonjour, je m'appelle Anastase Jean-Paul. Je suis d'origine de la Guadeloupe. J'ai 68 ans. Et puis, je suis à Marseille parce que Marseille, il y a le soleil et nous, on aime le soleil. Voilà, je rencontre un monsieur là, intéressant. Et puis, j'essaye de faire quelque chose pour lui faire plaisir.
Jean-Paul, alors vous êtes né à Marseille ou votre enfance?
En Guadeloupe. Et je suis venu en France à l'âge de 17 ans, en 76. Mais je suis atterri à Paris. Et puis, un jour je suis venu ici à Marseille. J'ai vu que il y avait la chaleur, quoi. Alors, je suis resté dans la chaleur. Bon, maintenant, étant donné que je suis dans la chaleur, j'essaye de dessiner un peu. Bien, enfin, je ne suis pas pro, mais je me débrouille. Et puis, ça passe le temps, et puis ça m'évade un peu. Voilà.
Alors, Jean-Paul, vous faisiez quoi quand vous étiez jeune? Qu'est-ce que vous avez comme métier, comme...
C'est-à-dire, quand j'étais jeune, j'ai appris à faire la maçonnerie, mais c'était trop dur pour moi. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces machines qu'on avait maintenant. Il fallait monter tous les matériels avec un seau, le béton avec un seau. Enfin bref, j'ai laissé tomber. Après ça, j'ai travaillé homme de ménage. Et à la fin, j'ai fait, comment on appelle ça, jardinage. Et j'ai très bien aimé le jardinage parce qu'on travaille dehors et j'aime les plantes.
De temps en temps, vous allez en Guadeloupe, passer les vacances, voir la famille
Oui, c'est-à-dire j'allais avant parce que ma maman, elle était vivante, mais étant donné qu'elle est morte, bon, j'ai envie d'y aller, bien sûr, c'est mon pays, mais
ça
je sais
manque.
Pas. Ouais, ça me manque, quoi, voilà. Mais pourquoi pas. Et puis voilà.
Alors Jean-Paul, on va parler un peu de votre travail. Vous avez une table ici à la Cour Julien. Et je vous vois chaque fois que je passe par là, j'ai dit tiens, celui-là, Jean-Paul, il faut que je lui parle. Il m'a bien accueilli. On est à table, on est en train de siroter deux cafés. Et il va nous raconter comment il est arrivé à dessiner.
Bon, j'y arrivé, je grattais comme ça, comme tout le monde. Hein, et j'ai vu ça, je mettais deux yeux, un nez, des oreilles. Et puis petit à petit, j'ai vu que ça donnait quelque chose. Et puis j'ai attaqué le plus dur. Bon, maintenant, il reste encore du travail parce que il faut que je travaille avec les pros pour Mais ça va, je me débrouille pas mal.
Pour perfectionner.
Pour me perfectionner, voilà. Et puis je travaille toujours. Et puis les plus difficiles, je travaille pour améliorer. Maintenant, il reste les portraits des gens et les tableaux. Il faut que j'attaque ça.
Ouais.
Ben, je vais le faire.
Et ici, au cours Julien, quand il pleut ou quand vous êtes toujours là ou vous dessinez chez vous?
Non, quand il pleut comme ça, bon, j'arrive pas parce qu'il y a des gouttes qui tombent sur la feuille. Et bien quand je rentre chez moi, je dessine. Vous allez dire que je suis fou.
Ouais, ouais.
Je dessine à la maison parce qu'il fait chaud, je mets la musique, je bois un café. C'est pas la même chose. Mais c'est pas la même chose non plus dehors, parce que dehors, on respire, on voit des gens. C'est pas pareil. Mais sauf quand il pleut ou il y a du vent, c'est un peu difficile. Parce que j'ai les mains froides. ça m'embête quand même parce que j'ai envie de dessiner, mais j'arrive pas parce qu'il pleut ou il fait froid. On arrive quand même à dessiner, mais malgré le temps. Sinon, si il ne fait vraiment pas bon, je commence et puis je finis à la maison. Voilà. Je le termine à la maison. Mais j'aime ça parce que pourquoi je m'évade? J'entends, je vois, mais je suis loin dans le dessin. Mais un problème, c'est qu'il faut que je fasse attention parce que. C'est-à-dire, je suis dedans, il peut se passer quelque chose, on sait jamais, tu sais, avec le temps qui court et tout. Il faut que, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête, bon, je fume une cigarette, je bois un café et je regarde autour de moi pour voir ce qui se passe. Parce qu'il faut toujours regarder, parce que la personne... Pour moi, la personne il peut voir que je suis dans le dessin et c'est là qu'il peut venir. Parce que je suis loin dans le dessin. C'est, je ne sais pas comment vous expliquer. Et puis, il peut se passer quelque chose, quoi. Mais maintenant, je fais attention. Voilà.
Oui, Jean-Paul, je comprends, bien sûr. Parce que là, quand vous dessinez, vous rentrez en transe dans votre univers. Hein?
On est rentré dans le dessin même. Et puis, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, mais il faut faire attention quand même, parce que pendant qu'on dessine, il peut se passer plein de choses. Et puis, ça m'arrive souvent de dessiner pour les enfants, je donne le dessin à des enfants, bien sûr, sans qu'ils me payent, moi, ça me fait plaisir. Des fois, je les rencontre, quelques-uns, ils me disent... Ah, tu sais, j'ai toujours ton dessin dans ma chambre. Hein. Il dit, ah, ça fait plaisir. Il dit, quand tu te lèves, tu regardes le dessin et tu penses à Jean-Paul. Et oui, eh bien, je voulais vous dire aussi, mais il faut que... C'est-à-dire, tous mes dessins, il faut que je les signe, parce qu'on ne sait jamais, si jamais on ne sait pas. Alors, il faut que je signe tous les dessins. Et puis, là, je leur ai raconté un truc. Un jour, j'étais en train de dessiner et pas loin de moi, je vois une fille, elle dessine. Elle dit, elle dessine quoi? Je me suis rapproché d'elle. Pendant que je dessine, elle était en train de me dessiner. C'est pour ça que je vous ai dit, fais attention. Ouais, bonjour, quand on dessine, il faut faire attention. Parce que ça m'a fait rire.
Pour vous, c'est voler votre âme.
Non, c'est pas volé, mais comment ça s'appelle? C'est-à-dire que tu es occupé dans les dessins, tu vois, il y a comme ça, tu vois quelqu'un qui te dessine et il te sourit. Bon, comme c'est une fille, bon, c'est un homme, peut-être je l'aurais pas pris comme ça, mais comme c'est une fille, je l'ai bien pris. Et puis elle va donner le dessin exactement moi. Ouais, ça fait rire. Sinon, voilà, hein. Et puis j'ai rencontré un monsieur assez sympa. C'est ça que je voulais pour qu'on puisse m'aider un peu à avancer. Bon, on verra bien, hein, grâce à Dieu, parce que moi je crois beaucoup en Dieu. Et puis, on verra qu'est-ce que ça donne. Mais pour le moment, je dessine. J'ai plein de dessins à la maison, je le mets dans un classeur. Et puis un bon jour, je vais venir ici avec une table. Je mets tout ça sur la table. Et puis, c'est pas cher. Je vais faire style 15 euros. 15 euros le dessin. Je sais pas, est-ce que ça va marcher? On verra bien.
Et Jean-Paul, ici vous êtes à côté de Noga Asmava. C'est quoi ce
Noga, c'est-à-dire c'est un endroit, ils aident les indigents, les gens qui n'ont pas les moyens. Alors moi, étant donné que moi je vis tout seul, j'ai de la faim toujours à faire à manger, eux ils me dépannent là-bas. Quand je rentre à la maison, je prépare le manger à ma façon et je le mange. C'est-à-dire ils me dépannent. C'est fait juste pour ça. Et puis ils sont très gentils avec moi. Des fois ils me donnent des feutres, des fois ils me donnent des trucs pour dessiner. Il y a plein de gens qui m'aident beaucoup, surtout les femmes. Hein. Ils m'amènent des feuilles, des stylos, tout ce qui. Aïe aïe aïe, il y en a plein. Voilà.
Voilà. Donc vous êtes connu comme un loup blanc là.
Oui, le loup blanc. Oui. Mais en bon terme. Voilà.
Est-ce qu'on parle un peu, puisque vous êtes tout le temps là ici au cours Julien, est-ce qu'il a changé le cours Julien ?
Il a très changé parce qu'en ce moment il y a des gens qui prennent de la drogue dure. J'avais des alcooliques, j'ai plein de... Tous mes copains, ils sont des alcooliques. Moi, j'essaie de leur parler, j'essaie de... Il y en a, bon... Sur cinq, quand même, j'ai essayé de récupérer un. Bon, là, ça va maintenant, il ne boit plus. Bon, maintenant, c'est Dieu qui fait le... C'est Dieu qui fait le travail, hein. Parce que moi, j'aime pas... Parce que c'est le chétan, ça, qui rentre en eux, et puis... Eux, ils ne voient pas ça. Et puis, moi, j'aime pas. J'aime pas l'alcool. Voilà, moi je bois pas. De temps en temps je fais mon joint. C'est tout. Et ce matin j'ai fait mon sport. C'est-à-dire dessiner, il faut faire du sport, il faut croire en Dieu. Et on va aller très loin. Mais il faut croire en Dieu avant. Avant tout, il faut que. C'est Dieu qui m'a envoyé ce monsieur-là me voir. Le hasard, ça n'existe pas. Eh bien, on va travailler ensemble, si Dieu veut, et puis on verra bien.
Donc aussi, je m'adresse à ceux qui sont en train d'écouter cette émission avec Jean-Paul. Il est très sympa, Jean-Paul, il est au cours Julien. Si vous voulez un peu l'aider, surtout les associations, parce qu'il a assez travaillé en bénévolat, donc il a besoin un peu pour qu'on l'aide, parce que c'est pas un feignant, c'est pas... Il travaille, il dessine. Et c'est bien de dessiner avec les enfants quand même, non?
Oui, oui, oui. C'est-à-dire que je dessine avec les enfants, je leur fais des dessins. C'est pas pareil. Je leur apprends comment, je leur apprends comment il faut faire, comment il faut tenir le stylo. Ils sont trop beaux. Moi, j'aime bien les enfants quand ils dessinent. Enfin, j'aime bien les enfants, quoi. T'as vu, c'est pas pareil que les adultes. Oui, au moins, c'est-à-dire, si admettons je ne suis plus là, au moins je sais qu'il y, a, y en a un qui, ses dessins me ressemblent à les dessins que je faisais. Je lui montre comment il faut faire et puis lui, peut-être un jour, il sera lancé.
Et qu'est-ce que vous voulez faire en dehors du dessin ?
Oh, maintenant je suis vieux, maintenant j'ai 68 ans, il n'y a pas grand chose à faire. Hein.
La mer.
Ouais, la mer, le repos. Vous savez, c'est la retraite maintenant. Maintenant je veux aider les gens. Je veux aider les gens comme on m'a aidé. Moi je veux les aider à dessiner, à faire du sport. Et surtout à prier.
Ouais.
Surtout à prier pour que Dieu nous donne quelque chose. Parce qu'on est mal barré. Voilà.
Alors, puisqu'on est mal barré, comment vous voyez la France de demain ?
Oh là, ça c'est une autre chose. La France de demain, tu sais, il est déjà un, il est mal parti déjà. Il est mal barré, alors j'espère, mais il y a juste un petit, j'espère qu'il s'en sortira. Mais il n'y a pas grand chose. J'espère qu'ils vont. Parce que de jour en jour, ils s'enfoncent. Ils s'enfoncent. Et puis, c'est pas comment ça s'appelle, en augmentant les choses que ça arrange les choses. Après ça, vous dites bonne année, bonne année, bonne année. C'est pas bonne année, c'est mauvaise année. Parce que tous les jours, ils augmentent. Au lieu de baisser, ils augmentent. Moi, je suis dessinateur, je travaille. Mais je travaille pas comme eux. Eux, ils travaillent beaucoup, plus que moi. Ils méritent plus que ça. Maintenant, je sais pas moi, la France, c'est compliqué pour la France, elle est compliquée. T'as vu ? Je ne peux pas vous dire.
On a oublié de parler de vos parents. Est-ce qu'ils étaient ici en France ou sont restés en Guadeloupe ?
Mes parents, ils étaient en Guadeloupe. C'est-à-dire, ma maman, elle est morte, mon papa, elle est mort, ma grand-mère, elle est morte. Il ne me reste pas grand. Grande chose là-bas. Il reste, je crois, une soeur, mais elle vit ici. Bon, bientôt, peut-être elle va partir en Guadeloupe. Il reste qu'elle seulement. Et puis, bon, bien sûr, j'aime mon pays, mais j'aimerais bien être avec ma maman. Et oui.
C'est comme une maison sans toi.
Voilà. Parce que je descendais exprès pour elle. T'as vu, j'ai amené un petit cadeau. voilà, elle est morte, hein, c'est Dieu qui a voulu ça. C'est-à-dire, elle est morte, elle était trop nerveuse, elle souffrait de tension. Et puis, elle est partie, quoi. Mais je me laisse pas aller, hein, malgré elle est partie, je me laisse pas aller. Je reprends mes forces. Et Dieu est grand.
Jean-Paul, puisque vous êtes croyant, que vous faites la prière, qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes-là qu'on voit souvent comme c'est des égarés, c'est des...
Ah, monsieur, eux, c'est dur à leur parler, hein, c'est dur, ils sont partis dans un délire, eux, ils croient que c'est un bon chemin, mais je pense pas. Tu peux pas me dire que tu as 15 ans, tu vas tuer quelqu'un. 15 ans, tu vas tuer quelqu'un. Tu passes toute ta vie, tu n'as même pas le temps de, comment on appelle ça, de profiter de ta jeunesse. 15 ans. Alors pour moi, c'est vraiment idiot de faire un truc comme ça. Tu as vu tous les jeunes là qui font des bêtises. C'est à rien. C'est pas, attention, c'est pas la faute de leurs parents. Hein. C'est leurs parents leur a montré bien les choses. Mais sauf que quand ils rencontrent leurs petits copains là, ils oublient. Parce que tout le monde dit, ouais, c'est les parents. Moi, j'ai des enfants, je les ai bien élevés. Hein. Maintenant, ils sont partis en couille, ça c'est leur problème, mais c'est pas moi qui est responsable. Voilà, ben. Parce que. Voilà.
Alors, je vois beaucoup de gens qui te font.
Ouais, coucou.
C'est-à-dire, je suis connu ici.
Hein? Je suis connu ici.
Ouais.
Ça. Je suis connu parce qu'eux ils m'aiment bien parce que comme je suis âgé, des fois ils viennent ici pour comment ça s'appelle, pour me raconter leur vie, pour me dire comment t'expliquer, comme si j'étais leur papa.
Ah ouais. Ah ouais.
Je m'excuse, je vais dire bonjour à le monsieur.
Alors.
Moi paye un bon voyage en avion. Moi vrai cinéma, moi manger, moi bien vrai, moi dormi, moi levé. Avant c'était français, moi t'es qu'à parler. Mais les moi arrivé à Paris, moi dormi dehors, moi dormi dehors, moi dormi en dalo. Moi dormi dehors, moi dormi en tout à métro. Moi pas même si non vieux pilover. Moi vini si vraie misère. Moi t'es à consommer les vrais sa faute de qui mettait moi dehors. Ça qui plus belle encore. Moi j'ai fait cloche. Mignon situation folklorique. Moi dormi dehors, moi dormi dehors, moi dormi en dalo. Moi dormi dehors, moi dormi en tout à métro. Moi, subi une déception qui arrêtait
toi les embelles, casse-faire de lit.
Dans quelques instants, la suite de Anastase de Jean-Paul.
Ils sont mal barrés. Je sais pas moi. Moi quand j'étais jeune, j'étais pas comme ça moi. Hein. Je respectais les gens, j'ai été élevé avec ma grand-mère, je respecte les gens âgés, je respecte les femmes, les enfants, moi je respecte tout le monde. Mais maintenant, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça maintenant. Maintenant, c'est. Ils ont vu des films, machin, ils croient qu'ils sont dans le film. Pour eux, c'est un film. Mais en réalité même, c'est des idiots parce que eux, ils pensent pas à leurs parents. Eux, ils veulent devenir, comment ça s'appelle, un bandit. Mais après ça, quand il leur arrive quelque chose, c'est qui pleure? C'est la famille. Ils sont sur cachet. Alors si vraiment tu penses à ta famille, tu vas pas faire des trucs bizarres. Mmh. Je sais pas. Moi, avant de faire... Ma grand-mère, avant... Quand elle était là, avant de faire une bêtise, j'ai réfléchi ça avant. Il dit non, il faut pas que je fasse ça parce que ma grand-mère, elle va pleurer. Alors je le fais pas. Alors je le faisais pas. Mmh. Si tu aimes ta famille, tu penses comme ça. Tu fais pas. C'est pas parce que tu refuses que tu es un lâche, hein, non. C'est pour ma famille. Voilà. Je pense pas. Moi, j'ai vu plein de familles qui pleurent à la télé. Oh, mon fils, il revient pas. Et tu vois, mais ton fils, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Mm. Bon, si c'est quelqu'un on a tué comme ça, là, dans la rue, comment ça s'appelle, par une balle perdue, là, je te comprends. Mais si ton fils est impliqué dans des trucs, et puis après ça, il se trouve dans une situation comme ça, c'est sa faute. Je suis désolé. Moi, j'aimerais bien qu'ils m'embauchent dans les cités pour parler un peu avec les jeunes, parce que comme je suis passé par là, j'aimerais bien leur faire comprendre des choses. Bon, peut-être, bon, sur 20, il y en a 5 que je peux sauver. J'aimerais bien, si jamais quelqu'un trouve une place pour moi dans le, pour, ici, le, comment on appelle ça, éducateur, voilà, pour essayer, parce que c'est des enfants, ils font de la peine. Parce qu'ils ne marchent pas avec Dieu, ils marchent avec le chétan. Et puis le chétan, il a pris pas mal de gens.
Donc pour toi, ça c'est sûr, hein, surtout ceux des quartiers nord. Hein. Bah, les jeunes, ils sont enrôlés, ils ont 14, 12, 13, 14 ans. Même les...
Moi, j'habite à la Castellane. Moi, je sais tout ce qui se passe dans la cité. Tout ce qui se passe dans la cité, je sais. Mais sauf que je ne me mélange pas. Bonjour, et puis je fais mon chemin. Et c'est tout. Il ne faut pas trop rentrer dans des zones, il ne faut pas. Parce qu'après, quand tu veux pour sortir, tu ne peux pas. Donc c'est bonjour, ciao. Éviter certaines... C'est la Castellane, hein, 16e. Ça veut... C'est-à-dire, je remercie M. Camaro, je le remercie beaucoup, parce qu'il m'a vu, et puis il est venu pour me faire un entretien pour vous, pour qu'on puisse me connaître. Je le remercie beaucoup, je lui fais un gros bisou, que Dieu le protège. Oh, alors là, moi, vous savez, j'aime la musique, j'aime bien danser, j'aime toutes les musiques. Tout, c'est monsieur, il est kabyle, eh bien j'aime la musique arabe. J'aime la musique arabe.
Kabyle.
J'aime. Hier j'ai écouté. Comment il s'appelle? Chimbami. Hier j'ai écouté. Comment il s'appelle? Khaled.
Khaled, ouais.
Moi j'écoute la musique. J'aime tout le monde. Moi, la musique pour moi c'est réunir. C'est réunir les gens pour qu'ils s'aiment. Pour qu'on fait quelque chose ensemble. La musique, c'est ça, la musique. C'est pour ça que j'écoute la musique un peu partout. Dans chaque pays, comment ça s'appelle, la musique me plaît, bien sûr.
Universelle.
Voilà, c'est ça la musique. La musique, c'est pour se réunir et pour s'aimer. Et voilà. C'est là, monsieur.
C'est là.
Ouais.
Ben Jean-Paul, merci. Je te laisse dessiner, hein, parce que je t'ai un peu enlevé.
Merci beaucoup, monsieur. Comment déjà ?
Camaro.
Monsieur Camaro. Ah ouais, la voiture, la Camaro, elle marche bien. Hein. Tu connais ? Eh oui, Camaro. C'est Ford, je crois.
Ah ouais.
C'est des Américains qui avaient sorti ça. Elle marche bien.
C'est la Mustang.
Mustang, ouais, ouais. Elle marche. Bon, eh ben, écoute. Si vous voulez m'aider, vous passez au cours Julien. Si vous avez des stylos, des enfants, vous m'envoyez tout ça. Moi, ça ne me gêne pas du tout. J'aime travailler avec les enfants. Voilà.
Avec la gamelle du Cheb Khaled, avec Khan Cheb. C'était une fois dans l'Ouest. Sur ce, je vous dis au revoir à bientôt, à jeudi prochain, avec d'autres reportages, d'autres interviews, d'autres portraits, et bien sûr, la Palestine au cœur. جوست ابخي خالد لاكامال لاكامال نخليكم مع من؟ مع الحاج محمد العنقا. بك الحاج محمد العنقا انا المرحوم. تشاو.